Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque samedi. Je vous donne sans tarder une information nous concernant. Écoutez bien et notez tout de suite un nouveau rendez-vous que nous vous proposons. Nous allons en effet vous retrouver chaque vendredi pendant l'été, dès vendredi prochain, le 8 juillet, avec Claude Angéli du Canard Enchaîné. Il a été longtemps le rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique. Et chaque vendredi, donc à 14h10, temps universel, 16h10, heure de Paris, il viendra nous raconter ses grandes enquêtes. À ne pas manquer donc. L'émission sera bien sûr podcastable, son titre « Les plaisirs du journalisme ». Mais parlons d'aujourd'hui, on se retrouve donc pour revivre 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction. Une semaine d'actualité, le rendez-vous qui en toute saison, sans coupure, vous offre une synthèse des grands événements dans le monde, donc en Afrique aussi, ainsi qu'en France. Après le flash, rendez-vous d'ailleurs avec l'essentiel de l'actualité sur le continent africain. Nous partirons pour le Mali et le Bénin notamment, rendez-vous aussi avec vos messages. Et ce samedi, nous allons aussi partir pour la Chine avec 2 invités, l'un à Pékin, Mathieu Baratier. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous à Pékin. Quel est le grand titre de l'actualité ces dernières heures à Pékin ?
Eh ben, cette semaine, vendredi, c'était le 1er juillet et chaque 1er juillet, on fête l'anniversaire du Parti communiste. Alors ça peut paraître un peu anachronique, un peu dépassé. Pourtant, tous les journaux chinois sont obligés d'en parler. Donc on a un article dans tous les journaux quasiment sur l'anniversaire du Parti communiste chinois. Même si on peut avoir certains médias plutôt modernes, avec des sujets de société, des sujets sur les changements de la Chine, mais chaque 1er juillet, on va parler du Parti communiste, avec souvent d'ailleurs des citations du président de la République.
Là, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans cette émission. Et nous avons à Paris, dans ce studio, notre confrère de la rédaction, Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pierre-Edouard.
Plus la peine de vous présenter, vous Stéphane. On vous connaît, les invités, vous connaissent, spécialiste de l'Asie. Vous avez été quelques années en poste à Pékin, vous aussi, entre 2000 et 2014, il me semble.
C'est ça, 2010-2014.
Hein, et tous les deux, Mathieu Baratier et Stéphane Lagarde, vous avez écrit un livre, un très beau livre, très utile, très, très clair, qui s'intitule aujourd'hui La Chine, publié aux éditions Casterman, qui est une référence, avec RFI, un livre qui nous explique la Chine, mais en dehors, en quelque sorte, de l'actualité. C'est pas la Chine politique, c'est aussi la Chine politique, mais c'est aussi la Chine culturelle, la Chine, la société chinoise, l'histoire de la Chine, par exemple.
Oui, l'éditeur de Tintin, donc Casterman, avec RFI.
Ça vous va bien.
C'est vraiment la Chine de 7 à 77 ans. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire avec Mathieu et Yi. Hein, donc, on a essayé de donner un aperçu de ce pays continent qui bouge tout le temps, qui a une histoire incroyable, hein, 5000 ans d'histoire. Et donc, on voulait à la fois donner des références historiques pour comprendre la Chine, toute son histoire, et puis également des références culturelles aujourd'hui, comment vivent les Chinois. Et puis surtout, quand même, il y a eu un gros travail notamment d'actualisation, parce que ça change tout le temps, eh bien, comment se passe la politique, comment se passe la vie de tous les jours des Chinois, la société, l'économie chinoise également.
Oui, je vous ai cité Stéphane Lagarde, j'ai cité Mathieu Baratier, mais j'ai oublié de citer Wang Yi, qui est journaliste aussi et qui vit en Chine.
Voilà, c'est ça, et qui connaît très très bien l'histoire évidemment de ce pays, puisqu'elle est chinoise. Donc ouais, c'est elle qui a fait un gros travail sur ce livre, notamment sur l'aspect culturel et puis la société chinoise.
Mathieu Baratier, à Pékin, en lisant votre livre, le livre que vous avez fait donc avec Wang Li et Stéphane, je me suis aperçu en fait qu'on connaît la Chine sans la connaître. L'avantage de ce livre, je le répète, c'est d'aller vraiment plus au fond de la société chinoise avec toute sa complexité.
Ben, c'est vrai que la Chine, on en entend parler tout le temps, très souvent, elle est omniprésente parce qu'elle est vraiment, elle a une place très importante dans l'économie et même de plus en plus dans la politique internationale. Mais on a évidemment pas mal de préjugés pour les Français, pour les Européens, même pour les Africains. C'est un pays qui est lointain, donc on n'a pas forcément des contacts directs avec la Chine. Et ben, là, ce qu'on a essayé de faire, c'est des textes très courts, donc de donner une entrée par des histoires un peu concrètes qui illustraient une des tendances de la société chinoise, une des nouveautés, une des contradictions aussi, un des contrastes qu'on pourrait rencontrer en Chine. Donc c'est des textes courts, mais qu'on essaye de rendre vivants, de rendre concrets.
Alors nous allons revenir en Chine, bien sûr, mais auparavant, avant de parler de choses graves, d'un attentat à Istanbul ou des suites du Brexit, un sourire en écoutant un commentateur sportif islandais après la victoire de ses compatriotes, victoire historique, là on peut le dire, face à l'Angleterre, 2-1 dans l'Euro 2016.
Yeah! Lewis, Paul Beck, Sigthorsson, Memphis.
L'Islande qui sera l'adversaire de la France en quart de finale demain, je ne vous apprends rien, à suivre sur RFI, le foot à la radio, il n'y a rien de mieux au fond. Une semaine d'actualité, une émission donc à podcaster sur le site de la radio RFI.fr. L'actualité est ainsi faite de choses insolites et d'événements graves. La Turquie considère le groupe État islamique comme le principal suspect du triple attentat suicide et de la fusillade mardi soir à l'aéroport international d'Istanbul, Atatürk, qui a fait, je rappelle, plus de 40 morts et plus de 200 blessés. La population aujourd'hui a peur. Istanbul mercredi, Alexandre Billette.
C'est une année noire qui se poursuit en Turquie avec cette attaque la plus meurtrière de la métropole depuis près de 40 ans. Après l'attentat de Sultanahmet en janvier, celui de la rue Istiklal en mars, c'est la troisième attaque depuis le début de l'année contre des lieux symboliques d'Istanbul. Au cœur de la ville, sur la place centrale de Taksim, là où avait eu lieu en 2013 le grand mouvement de protestation contre le régime du président Erdogan, les passants sont aujourd'hui traumatisés, résignés aussi, comme l'explique Ege, une architecte de 30 ans.
Depuis juin 2015, c'est le 11e attentat. C'est devenu quelque chose de tellement quotidien que tout le monde veut seulement que ce cauchemar se termine. Mais quand et comment ça va prendre fin? Ou alors, à quel moment allons-nous nous-mêmes devenir des victimes? C'est ce que je me demande en ce moment.
Sur Twitter, depuis l'attentat de l'aéroport Atatürk, le hashtag qui domine en Turquie tient en deux mots. Güvende değiliz, nous ne sommes pas en sécurité.
Une semaine d'actualité, Stéphane Lagarde, la Chine connaît aussi le terrorisme.
Oui, la Chine, par le comité central, a vivement condamné évidemment les attentats en France, également en Turquie, enfin partout où il se présente. Alors la Chine est confrontée à du terrorisme, notamment dans ses gares, des attaques au couteau, hein, pas avec des bombes, mais aussi à des, enfin, ce qu'ils présentent comme des détournements d'avions, un terrorisme qui serait venu donc de l'ouest de la Chine, de la région du Xinjiang, où certains radicaux donc mènent ses actions contre les commissariats, contre l'institution, contre le Parti communiste chinois également. Donc des actes terroristes qui sont recensés sur le territoire chinois aujourd'hui.
Oui. Mathieu Baratier à Pékin, est-ce que le football signifie quelque chose aux Chinois? Est-ce que le football intéresse les Chinois?
Ah oui. Oui, oui, énormément. Le football est très, très populaire. Les Chinois adorent le football et ils suivent avec énormément de passion le championnat national chinois. Et ils regardent aussi, on retransmet d'ailleurs les matchs de l'Euro en ce moment. Et ils connaissent très bien les équipes européennes et ils regardent ça avec vraiment un grand intérêt. Il y a vraiment des supporters de foot passionnés. D'ailleurs, je sais que maintenant, c'est même devenu une affaire d'État puisque le président de la République, lui-même aussi fan de foot, a décidé de faire de son pays un grand pays de football, parce que le problème de la Chine, c'est qu'ils sont très mal classés et que l'équipe nationale n'a pas de bons résultats et ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc le gouvernement a décidé de former des entraîneurs et de créer des clubs de foot un peu partout dans le pays pour enfin faire monter le niveau de la Chine et essayer d'avoir une équipe nationale digne de ce nom.
Stéphane Lagarde, ça veut dire que la Chine va devenir un grand du football dans les années qui viennent?
Elle ambitionne de devenir championne du monde. Alors là, quand ils le disent, les Chinois, c'est qu'ils vont faire quelque chose. C'est le président Xi Jinping qui l'a dit au lendemain de la victoire du Guangzhou Evergrande, qui est un grand club de Canton, le seul grand club, moi, pour moi, en tout cas, pour l'instant, en Chine, qui avait gagné donc en 2013 en Coupe asiatique, dans la Ligue asiatique. Et là, il a dit, on va gagner la Coupe du Monde. Ça prendra du temps, mais c'est ce qu'ils font. Et ça aussi, c'est un grand changement pour la Chine. Alors ça intéresse beaucoup, par exemple, nos auditeurs en Afrique. Il y a énormément aujourd'hui. Il n'y avait pas de place. Il y a encore 3 ou 4 ans, il y avait peu de place pour ces joueurs africains. Aujourd'hui, il y a beaucoup de places qui s'ouvrent. Et puis, il y a vraiment un mercato incroyable. Ils achètent des joueurs, ils achètent des entraîneurs, comme le dit Mathieu. Donc, c'est devenu un vrai business, comme en Europe, comme ailleurs, le football.
Alors, Mathieu suit depuis des années l'évolution de la Chine, son développement. Vous l'avez suivi également, Stéphane. Moi, ce qui frappe, vu de Paris, c'est la rapidité de cette transformation d'un pays. Comment un pays peut-il autant se transformer?
Oui, tout va très vite et c'est à la fois le bon côté de la médaille et son revers. Alors évidemment, pour le Parti communiste chinois, c'est l'argument principal. Regardez aujourd'hui la Chine. On est passé, si vous voulez, enfin pour moi en tout cas, du péril jaune en Occident au portefeuille jaune. Aujourd'hui, on se dit mais c'est incroyable, toute cette classe moyenne chinoise, elle est partout. J'étais encore récemment en Corée du Sud, il y a des Chinois dans tous les grands magasins, il y en a à Paris. Aujourd'hui, c'est devenu une Chine riche qui s'est développée. En tout cas, cette classe moyenne là est présente dans les pays occidentaux. Donc on voit bien que la Chine, comme le dit le Parti parti communiste chinois s'est transformé très rapidement et a réussi à s'enrichir, à sortir de la pauvreté. Des millions de gens sont sortis de la pauvreté pour accéder à cette richesse. Le revers de la médaille, c'est que ça va parfois trop vite pour certains et que certains chinois, beaucoup, échappent à cette richesse et notamment.
Comme s'il y avait deux Chines.
Deux Chines et notamment.
Très bien dans le livre.
Et notamment ceux qui sont pas d'accord politiquement, qui évidemment, pour une grande partie en tout cas de la société civile, des avocats ou d'autres, se retrouvent en prison quand ils manifestent leur désaccord.
Alors partons maintenant pour Bruxelles, Stéphane, Mathieu, et parlons de l'Europe après le Brexit. À retenir la dernière visite de David Cameron, le Premier ministre britannique, dans la capitale belge lors d'un Conseil européen, envoyé spécial Anastasia Becchio.
David Cameron avait prévenu, il ne sera pas celui qui lancera la procédure de divorce. Le Premier ministre britannique laisse cette tâche à son successeur qui doit être désigné le 9 septembre. En arrivant au Conseil, il s'est donc présenté avec un tout autre message, souhaitant nouer une nouvelle relation avec les Européens.
Je vais expliquer que la Grande-Bretagne va quitter l'UE, mais je veux que cette procédure soit aussi constructive que possible. J'espère bien que nous arriverons à construire une relation la plus proche possible en termes de commerce, de coopération et de sécurité, parce que c'est bon pour nous et c'est bon pour eux.
Les dirigeants européens redoutent en réalité que les Britanniques ne soient tentés de commencer à négocier une nouvelle relation avec l'UE avant d'entamer le processus de sortie. Une sorte de relation à la carte, pour reprendre les mots d'Angela Merkel, et surtout qu'ils laissent traîner les choses. C'est une crainte du Premier ministre belge, Charles Michel.
Moi, je n'accepte pas que l'Europe soit l'otage d'une crise politique en Grande-Bretagne. Je n'accepte pas que l'Europe paye la facture pour des décisions qui ont été prises en Grande-Bretagne.
Et les turbulences politiques au Royaume-Uni ne risquent pas d'arranger les choses. Demain, la Première ministre écossaise est attendue à Bruxelles pour plaider la cause de sa nation, qui a voté massivement pour rester au sein de l'Union européenne. Nicola Sturgeon ira au Parlement européen, mais elle ne devrait pas rencontrer le président du Conseil. Pour l'heure, ça n'est pas approprié, dit-on, dans l'entourage de Donald Tusk.
Alors justement, sur cette visite de Nicola Sturgeon, au lendemain de celle de David Cameron, reportage de Laxmi Lotha.
Il n'y aura pas de voie toute tracée pour l'Écosse, reconnaît Nicola Sturgeon à sa sortie de la Commission européenne. La première ministre écossaise s'est toutefois dite optimiste.
Ce n'est que le début des discussions, une série de réunions aujourd'hui à Bruxelles pour que les gens sachent que contrairement à d'autres parties du Royaume-Uni, l'Écosse ne souhaite pas quitter l'Union européenne.
La chef du gouvernement écossais est arrivée confiante à Bruxelles, vêtue des couleurs du drapeau européen. Elle a été reçue par Martin Schulz, le président du Parlement, puis Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Mais des voix s'élèvent contre des négociations post-Brexit avec l'Écosse, notamment celle de Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol.
Le seul interlocuteur, c'est le Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni s'en va, l'Écosse s'en va aussi.
Mariano Rajoy qui craint les velléités d'indépendance de la Catalogne. Les négociations seront menées avec le Royaume-Uni, a également dit le président français. La semaine dernière, les Écossais ont voté à 62% pour le maintien au sein de l'UE.
Et on le sait, depuis jeudi, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, fer de lance des partisans du Brexit, mis face à ses responsabilités, ses mensonges et ses contradictions, a décidé qu'il ne serait finalement pas candidat à la succession de David Cameron. Londres, jeudi donc, Muriel Delcroix.
Avec le style flamboyant qui le caractérise, Boris Johnson est venu déclamer un long discours sur le besoin d'unifier le pays et de protéger les intérêts britanniques face à Bruxelles, avant enfin d'annoncer qu'il ne serait pas candidat, en faisant allusion à une trahison à la Brutus. On avait en effet appris dans la matinée que Michael Gove, le ministre de la Justice, se lançait dans la course. L'un des avocats les plus ardents du Brexit et allié proche de Boris Johnson tout au long de la campagne, Michael Gove avait toujours exclu de briguer le poste de Premier ministre et devait même aider Boris Johnson à devenir le leader conservateur. À la surprise générale, il a finalement décidé de le poignarder dans le dos en expliquant que l'ancien maire de Londres n'était en réalité pas capable de diriger ni le parti ni le pays. Sa candidature était dévastatrice pour Boris Johnson qui avait désormais peu de chances de figurer parmi les deux candidats sélectionnés dans un premier temps par les députés conservateurs et qui doivent être ensuite choisis par le reste des militants Tories. Au milieu de la mêlée, Theresa May, elle, s'est d'ores et déjà présentée comme la candidate la plus crédible, estimant, malgré avoir soutenu le maintien dans l'Europe, avoir l'expérience et la poigne suffisante pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'UE dans les meilleures conditions.
L'actualité européenne notamment est bien sûr à suivre sur notre antenne. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Stéphane Lagarde et de Mathieu Baratier, co-auteur d'Aujourd'hui la Chine, aux éditions Casterman avec RFI et avec Wang Yi également. Mathieu Baratier à Pékin, j'imagine que la sortie de la Grande-Bretagne du Brexit ne laisse pas indifférents les Chinois ?
Non, forcément, ça a été remarqué. Alors la première réaction qu'on a pu lire dans la presse chinoise, c'était de rassurer, c'est-à-dire de dire que pour la Chine, le Brexit n'aura pas de conséquences, et sur l'économie chinoise en particulier, parce que vous savez que cette année, même depuis 2 ans, l'économie chinoise ralentit, et donc ça pose des questions assez graves sur la stabilité sociale du pays, enfin le taux de chômage, et donc le gouvernement s'emploie à rassurer absolument dans ses déclarations. La deuxième chose, c'est que pour la Chine, c'est sans doute pas une bonne nouvelle de voir une Europe affaiblie par le départ de la Grande-Bretagne, parce que pour la Chine, l'Europe, c'est un contrepoids dans son dialogue avec les États-Unis. Donc je pense que le Pékin a plutôt intérêt à garder une Europe forte. Donc de ce côté-là, c'est pas une bonne nouvelle pour la Chine. Mais en effet, je pense que le gouvernement chinois, évidemment, suit de très près l'évolution de la situation.
Stéphane Lagarde.
Pékin, de toute façon, c'est aussi travailler en bilatéral. Hein. On l'a vu avec la Grèce, quand on a vu les capitaux chinois arriver en Grèce quand la Grèce avait des difficultés. Et puis, on a vu la visite de Xi Jinping. Alors, c'était avec Cameron, mais ça sera pareil demain. La Grande-Bretagne a déroulé le tapis rouge hein, pour la venue du président chinois l'année dernière. Et donc, il y a une très, très bonne relation entre le Royaume-Uni et la Chine aujourd'hui, alors qu'elle soit dans l'Europe ou ailleurs, je pense que ça va continuer.
Alors, de nouvelles manifestations ont commencé à Hong Kong pour l'indépendance, imagine, en tout cas pour fêter et commémorer l'anniversaire de la rétrocession de 1997. Est-ce qu'à votre avis, Stéphane Lagarde, c'est le prélude à de nouvelles tensions, de nouvelles manifestations qui vont durer comme la dernière fois ?
Alors, ça c'est compliqué. On l'a vu avec le printemps, ce qu'on appelait le printemps des parapluies. Oui. Hein, donc, quand bien des étudiants, notamment, des étudiants surtout d'ailleurs, ont dit que la Chine avait la mainmise, reprenait trop la main sur cette autonomie hein, qui a été accordée. C'est un système qui est particulier. Hong Kong est une région administrative spéciale qui a une autonomie de pensée, de liberté, en tout cas par rapport à ce qui se passe en Chine continentale. Et depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président Xi Jinping, du nouvel homme fort de Pékin, eh bien les Hongkongais ressentent, une partie des Hongkongais, il faut être précis, ressentent une certaine mainmise, un retour de la mainmise de Pékin, trop fort selon eux. Et par exemple, on l'a vu avec ce qu'on a appelé l'affaire des libraires disparus, hein, c'était pas le cercle des poètes disparus, mais les libraires disparus puis réapparus. Des libraires ont disparu de Pékin et on les a retrouvés en Chine continentale. Ils faisaient des confessions publiques à la télé en disant qu'ils avaient fait des méfaits, enfin bon bref. Et on a su récemment, puisqu'un des libraires a témoigné hein, en rentrant à Hong Kong, en disant qu'il avait été enlevé par les hommes de Pékin, enlevé sur le territoire normalement autonome qui fait partie de la Chine, bien sûr, mais autonome de Hong Kong. Donc c'est très compliqué, effectivement. Et il y a une grande partie de la jeunesse de Hong Kong qui est très remontée aujourd'hui, comme on a pu le voir avec la jeunesse taïwanaise, même si c'est différent, contre ce resserrement, on va dire, de l'étau pékinois autour de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, voilà, une certaine dureté du régime vis-à-vis de Hong Kong.
Alors, Mathieu Baratier, le président chinois a dit à l'occasion de l'ouverture du 95e anniversaire du Parti communiste chinois que la corruption est le plus grand danger, selon lui, qui menace le Parti communiste. C'est pas très nouveau, cette déclaration.
Non, surtout que c'est vraiment son cheval de bataille depuis qu'il a été nommé à la tête du pays. Il a lancé une campagne extrêmement violente et extrêmement puissante de anticorruption. Ça fait donc maintenant 3 ans et qui est une campagne que même les observateurs à l'intérieur du parti jugent quand même très violente et même déstabilisatrice pour le parti lui-même. Il n'y a pas une semaine sans qu'on annonce des arrestations ou alors des suicides qui peut affaiblir certains organismes de l'État, certains ministères ou les gouvernements locaux. Donc cette campagne anticorruption, elle se poursuit. Tout le monde se demande jusqu'où elle va aller, quand est-ce qu'elle va s'arrêter et qui elle va viser le mois prochain. Parce que donc il y a une certaine psychose et, parmi les fonctionnaires, parmi les membres du Parti communiste ou du gouvernement. Et ça, c'est pas un climat très serein dans lequel se déroule cette campagne.
Un mot rapide, Stéphane.
Bon, c'est une gangrène hein, pour le Parti communiste. C'est ce qui fait qu'il y a un rejet de la population, la corruption. Donc la campagne, les gens y sont favorables. Mais attention à ce que ça ne soit pas une purge. Hein. C'est aussi un moyen de se débarrasser de ses ennemis au sein du parti.
Évidemment. Stéphane, Mathieu, nous allons faire une pause afin d'écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures. Et on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. A tout de suite.
La marche.
Notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Nous parlons aussi de la Chine avec nos deux invités cette semaine, tous deux co-auteurs d'Aujourd'hui la Chine, un beau livre édité par Casterman avec RFI. L'un est à Pékin, il s'agit de Mathieu Baratier. Vous êtes toujours en ligne, Mathieu ?
Oui, toujours là.
Alors, les vacances d'été commencent en France. Est-ce que la Chine est une destination qui plaît aux touristes français, singulièrement ?
Ah bah, la Chine a beaucoup d'atouts pour attirer les touristes français et les touristes du monde entier. Et elle en accueille énormément, même si le nombre de touristes a un petit peu reculé pour la capitale pékinoise, sans doute en raison des taux de pollution très élevés dont on parle dans les médias du monde entier. Mais le tourisme en général se développe énormément en Chine et les Chinois pratiquent de plus en plus de tourisme dans une forme de plus en plus variée. Donc les touristes qui viennent en Chine pourront profiter de toutes ces infrastructures et tous ces endroits à découvrir dans le pays.
Alors l'autre auteur de ce livre, Aujourd'hui la Chine est avec nous dans ce studio, il s'appelle Stéphane Lagarde. Vous qui nous écoutez, vous le connaissez car il est journaliste à RFI, spécialiste de l'Asie, cofondateur d'un site dont on dira un mot tout à l'heure, Asialiste. Il faut dire effectivement, Mathieu, il faisait référence que les photos de Pékin dans la brume et le brouillard ne sont guère attirantes. Hein.
Oui, alors c'est ce qu'on a appelé Airpocalypse. Hein. Depuis 2011, on sait, c'est officiel maintenant, il y a un taux de particules de 2 microns 5, enfin on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais qui bousille les poumons, hein, si je peux me permettre. Tout ça, on l'entend, Heike Schmidt, notre correspondante, a fait plein de sujets là-dessus. C'est effectivement quelque chose qui pousse les expatriés, notamment certains expatriés, à quitter, à essayer de trouver une autre ville, alors ou à quitter la Chine. Mais même en trouvant une autre ville, ce qui est compliqué en Chine, c'est que la plupart des grandes mégalopoles aujourd'hui, Shanghai, Chengdu même, ou d'autres, hein, ou Chongqing par exemple, sont des capitales, des mégalopoles, pardon, qui sont également polluées. Donc c'est difficile de trouver un endroit. Et ce que disait Mathieu, c'est vrai, c'est que les Chinois cherchent une autre forme de tourisme. On a vu, par exemple, la Chine n'a jamais eu de hippies dans son histoire, mais là, des hipsters, des jeunes branchés qui en ont marre un peu du stress de la vie quotidienne, par exemple à Pékin, qui vont dans le Yunnan, dans les montagnes, qui essayent d'autres affaires, qui essayent de faire du tourisme autrement, ou en tout cas de s'installer un peu dans le vert.
Et vous nous expliquez très bien, Mathieu, Stéphane, que la Chine passe au vert et met le paquet, si j'ose dire, pour développer les énergies, comme on dit, alternatives, éoliennes et autres.
C'est même une championne du monde, hein, on peut le dire, en matière de photovoltaïque et d'autres énergies vertes. Il y a tout un tas d'énergies comme ça qui se développe. Alors, à un moment, ils ont fait du dumping avec les panneaux solaires en se confrontant aux États-Unis. D'ailleurs, bon, aujourd'hui, ils essayent d'améliorer la qualité, essayent de développer tout ça. Mais je pense que Mathieu a beaucoup plus d'exemples de ces énergies vertes développées dans le pays.
On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Moi, je voudrais que l'on passe quelques instants à parler de l'actualité française, avec d'abord le référendum local sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Une participation moyenne et une victoire des partisans de cet aéroport. Reportage le jour du vote de Christine Zibert.
Allez-y, à voter.
Un va-et-vient incessant dans le bureau 564, situé au sein du quartier populaire Bellevue à Nantes. Une vieille dame vient accompagnée de son fils pour dire non à l'aéroport.
Je viens même avec mon déambulateur. Pas de béton, pas de béton, pas de béton. C'est vraiment mon idée fixe depuis bien longtemps. La nature, la nature, la nature.
Une jeune femme d'origine anglaise est venue en vélo.
Moi, je me suis prononcée contre le nouvel aéroport. Je pense qu'il y a déjà un aéroport ici à Nantes, il y a un aéroport à Rennes, il y a un aéroport à Angers. Je suis pas convaincue que Angers et Rennes soient utilisés à leur pleine capacité. Pour moi, il n'y a pas besoin de construire un autre nouvel aéroport.
Une dame sort du bureau de vote. Elle était impatiente de voter parce que cela fait longtemps qu'elle a tranché.
Je suis pour l'aéroport. Je veux que les gens travaillent, que ça va apporter plein de choses. Pour moi, c'est comme ça.
L'aéroport va créer des emplois, cette dame en est convaincue. Mais les adeptes du non ripostent que ces emplois ne seraient que temporaires.
La loi El Khomri sur la réforme du Code du travail suite à noter d'abord de nouvelles manifestations mardi contre ce projet de loi à l'appel de la CGT et de Force ouvrière. Notamment, le projet a été légèrement remanié mercredi. Louis-Valentin Lopez.
Au cœur des modifications, une revalorisation des branches professionnelles. Ces branches qui, selon certains syndicats, sont éclipsées par les accords d'entreprise dans l'actuelle version de la loi travail. Alors la ministre du Travail lâche du lest. Au programme, des négociations au sein de chaque branche entre employeurs et syndicats. L'objectif, je cite, « définir les thèmes sur lesquels un accord d'entreprise ne pourra pas déroger à l'accord de branche ». Myriam El Khomri précise aussi que ces branches pèseront toujours plus lourd dans la balance que les accords d'entreprise, et ce dans deux domaines, l'égalité professionnelle et la pénibilité. Au passage, la ministre fait son mea culpa, elle reconnaît avoir tardé à arbitrer sur les licenciements économiques. Le but des points de retouche, faire plaisir aux frondeurs de l'Assemblée, se remettre dans la poche la partie la plus à gauche de la majorité, et surtout, éviter un nouveau 49-3, un 49-3 qui de toute façon pour Myriam El Khomri ne sera pas un passage en force car il est, je cite, prévu par la Constitution.
Avant de repartir en Chine avec nos invités Stéphane Lagarde et Mathieu Baratier, une escale à Calais maintenant dans le nord de la France après le Brexit. Calais, vous le savez, par où passent les migrants qui veulent se rendre en Grande-Bretagne. Reportage d'Alice Posicki.
Face à la mer, Sabine se régale d'une glace au caramel. Mais cette Calaisienne de naissance a comme un goût amer en bouche depuis les résultats du référendum britannique.
Puisqu'ils sont sortis de l'euro, qu'ils reprennent leurs frontières, qu'ils la mettent chez eux et pas chez nous.
La frontière a été fixée en 2003 par les accords du Touquet, des accords bilatéraux qui ne sont donc pas remis en cause avec le Brexit. Sabine le sait, mais elle estime qu'il est temps de remettre le sujet sur la table.
Il faut tout remettre à plat. Mais de toute façon, on n'a pas de solution pour ces gens qui sont là dans l'attente et dans la misère. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'Eldorado anglais, et puisqu'ils veulent sortir de la zone euro, qu'ils reprennent leurs frontières avec. Déjà, ce sera déjà un bon point.
Régis, Calaisien depuis 45 ans, garde lui aussi une certaine rancœur.
Puisqu'ils veulent rester chez eux et rentrer, quitter l'Europe, ils quittent l'Europe. On quitte l'Europe, on s'en va complètement, on rentre chez soi. Notre souhait à nous, c'est que les accords du Touquet soient purement simplement annulés.
Pour cet autre habitant, moins catégorique, la situation migratoire est un enjeu plus global.
C'est un problème européen. L'accord du Touquet, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait secondaire par rapport à cette question qui doit se régler au niveau de l'Europe.
Côté politique, la maire Les Républicains de Calais, tout comme le président de région Xavier Bertrand, ont demandé la renégociation des accords du Touquet.
Suite d'une semaine d'actualité, Mathieu Baratier à Pékin, quand les Chinois entendent peut-être parler de la réforme du Code du travail en France, ils doivent sourire un petit peu. On parle absolument pas de la même chose quand on parle du travail.
Oui, en Chine, ils aimeraient bien déjà avoir un premier Code du travail appliqué parce que c'est encore beaucoup de trous, il y a beaucoup de lacunes. Et ça dépend vraiment des zones où on est en Chine, mais il y a des endroits où il n'y a même pas de contrat de travail. Donc, c'est parfois la base qui manque. Donc forcément, c'est sûr que pour les Chinois, c'est très très loin de leurs préoccupations quotidiennes.
Et est-ce que les salaires ont augmenté quand même ces dernières années? D'évidence, oui.
Oui, les salaires augmentent régulièrement, surtout dans les villes. Ça, c'est certain que le coût de la main-d'œuvre même rattrape certains pays. On ne peut plus dire que la Chine est le pays le moins cher du monde où faire fabriquer son matériel, c'est le coût le plus bas au monde. Non, en Chine, maintenant, il y a des coûts qui sont comparables à bien d'autres pays. Et donc, ça continue à augmenter avec le niveau de vie en général de la Chine. Oui.
Stéphane Lagarde.
Et d'ailleurs, ça donne tout un mouvement de délocalisation depuis les années 2000. Alors, il y en a qui partent, par exemple, pour le textile, des usines chinoises sont parties au Cambodge. Ils ont le même problème qu'en Occident. Mais aussi une délocalisation à l'intérieur du pays. Les grandes multinationales comme Foxconn ouvrent des usines maintenant dans l'ouest du pays. Le gouvernement chinois pousse les multinationales à aller aussi développer le reste du pays, pas simplement la côte est, ce qu'on appelait autrefois l'atelier du monde. Et donc, là, dans ces zones, dans ces régions, les salaires sont un peu moins chers que sur la côte est. Là, la question aussi que se posent les Chinois, moi j'y étais récemment, c'est la question des robots, par exemple. Là, nous, on parle de loi du travail, eux, ils s'inquiètent pour leurs enfants, parce que, par exemple, dans le Guangdong, ce qu'on appelle le Guangdong, donc l'atelier du monde, là, qui est en face, cette grande région en face de Hong Kong, où a débuté le capitalisme rouge, là, où a débuté le pays, un pays de système, eh bien, on dit qu'en 2020, presque tous les métiers de service seront remplacés par des robots. En tout cas, ça va devenir, ils fabriquent des robots en ce moment, et toutes les usines sont en train de s'équiper de robots, donc ça, c'est une vraie inquiétude. Et puis, j'aime beaucoup cette émission, parce qu'il y a plein de sujets, mais quand on parlait des aéroports et
oui,
de l'aéroport de Nantes.
Vous posez des questions sur les aéroports en Chine qui.
C'est pareil, là. Alors, c'est incroyable. Maintenant, l'avion, tout le monde ne prend pas l'avion, bien sûr, mais ça s'est développé à une vitesse incroyable. Avec une différence, quand même, c'est que les militaires chinois gardent certains, comme on appelle ça, canaux aériens, donc ça limite un peu le développement. Il y a beaucoup de bouchons, pour des fois, on attend beaucoup pour prendre son avion ou pour décoller. Mais il y a aujourd'hui 180 aéroports, on le raconte dans le livre, 380 millions de passagers en 2014, et le trafic devrait encore augmenter. Il faut savoir que Airbus, le seul pays où ils ont une Une usine de fabrication en dehors de l'Europe, c'est la Chine, hein, à Tianjin. Et puis, Boeing aussi compte beaucoup sur le marché chinois. L'Américain pense qu'il y aura besoin de 6300 avions de ligne en plus dans les 20 ans. Et ça, c'est à lire aussi dans ce livre qu'on a commis.
Dans Aujourd'hui, la Chine, on apprend aussi que, enfin, on a la confirmation du développement du rail aussi, du TGV.
Alors là, c'est fabuleux.
Ouais. Hein, quand on voit la carte du réseau, on est ébahi.
En fait. Ah oui, c'est incroyable. En 10 ans, les Chinois ont fait le plus grand réseau à haute vitesse au monde. Alors ça a donné un problème puisqu'il y a eu un accident, une collision de TGV qui a été très grave à Wenzhou. Donc il a fallu ralentir les TGV. On avait des TGV. Moi j'ai fait un Pékin-Chongqing par exemple à 500 à l'heure la nuit. Ça traverse la nuit et comme ça pour aller du nord au sud. Donc ça ils ont un peu ralenti la machine, mais c'est un réseau fabuleux et ça va plus loin. Aujourd'hui, ce réseau se développe à l'étranger. Ils veulent le développer en Thaïlande par exemple. La Chine s'étend et veut notamment développer ce qu'on appelle la route de la soie et donc traverser l'Asie centrale avec des trains qui irait comme ça, qui serait des TGV et non plus le transsibérien, le célèbre transsibérien. Alors c'est un peu dommage pour les paysages.
Hein,
Par contre, certains rêvent même d'aller du Xinjiang, donc de l'ouest de Urumqi, donc dans l'ouest chinois, jusqu'à Londres en 48 heures. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on va aller très vite en Europe avec cette route de la soie.
Mathieu, vous utilisez souvent les transports en Chine, l'avion, le TGV ?
Oui, j'ai pris le TGV cette semaine encore. Il est monté seulement à 300 km/h en effet, parce que c'est indiqué dans le compartiment, donc on peut suivre la vitesse du train. Et le réseau de TGV est en effet effarant. Enfin, on peut aller partout, dans toutes les villes. Ça donne une toile d'araignée géante sur toute la Chine. Et pour les avions, il y a des problèmes de retard. Ça, c'est chronique, surtout dans les villes quand on va du sud au nord. Et ça c'est peut-être un des problèmes du développement échevelé des transports en Chine. C'est que parfois, il y a des engorgements.
Alors partons pour l'Afrique maintenant, un continent qui ne laisse pas indifférent les Chinois, on le sait, pour parler d'abord de la décision de l'ONU d'envoyer 2500 casques bleus supplémentaires au Mali, Nicolas Champeau.
La résolution souhaite mettre en place un mandat plus robuste pour des casques bleus plus nombreux et plus mobiles. La priorité stratégique est d'accélérer la mise en œuvre des accords d'Alger et le retour de l'autorité de l'État dans le Nord, mais la mission ne perd pas de vue la protection des civils et la sécurité des casques bleus. 12 ont été fauchés au cours du seul mois de mai. Les contingents sont encouragés à multiplier les patrouilles efficaces et actives dans le Nord et dans le Centre. Ils auront mandat pour agir de façon préventive en cas de menaces détectées contre les civils. La résolution demande aussi aux États membres qui en ont la capacité ou qui en ont déjà fait la promesse d'aider la mission à lutter contre les menaces asymétriques au niveau du renseignement, des formations et des équipements, y compris au niveau des blindés. Cela ne figure pas dans le texte, mais des drones pourraient être déployés pour surveiller les axes de ravitaillement et détecter, grâce à leurs caméras thermiques, la présence d'engins explosifs improvisés. Le gouvernement malien l'avait réclamé, les effectifs devront être gonflés pour atteindre un plafond de 13 289 soldats et policiers. Ces renforts pourraient bénéficier de transferts de troupes issus des missions onusiennes en Côte d'Ivoire et au Libéria.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a également prolongé d'un an le mandat de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, malgré l'opposition du pouvoir à Khartoum. Notez aussi qu'un nouvel attentat suicide portant la marque des islamistes nigérians de Boko Haram a fait 11 morts dans la nuit de mercredi à jeudi au Cameroun. Et revenons maintenant sur le procès de Simone Gbagbo qui a lieu à Abidjan. L'audience de mardi a été marquée par l'audition d'un chef de milice de Laurent Gbagbo qui a accusé Simone de financer son mouvement. Compte rendu d'audience d'Anna Sylvestre.
On le surnomme Colonel H, dit-il. L'homme se présente comme un ancien chef de milice, un ex-membre de la galaxie patriotique. Actuellement en prison, il arrive menotté devant la cour d'assises. Face au juré et à seulement une poignée de centimètres de l'ancienne première dame, Moïse Metch affirme « Oui, pendant la crise, nous étions armés. Oui, notre rôle, c'était de défendre Laurent Gbagbo. Nous étions en charge de la répression, notamment contre les manifestants pro-Ouattara. » Puis, il accuse Simone Gbagbo « Nous financer, assure-t-il. » C'était la financière des Patriotes, ces groupes de jeunes partisans de l'ex-président réputés pour leur violence. Pour la première fois depuis le début des audiences, l'ancienne première dame est ainsi directement mise en cause pour son rôle présumé pendant la crise post-électorale. Jusque-là, en effet, ni les documents brandis par la partie civile, ni les premiers témoins n'étaient accablants. depuis le début de son procès, Simone Gbagbo-Ni avoir une quelconque responsabilité dans les crimes commis en 2010 et 2011.
Partons pour le Bénin maintenant, avant de regagner la Chine avec nos invités. Bénin, où avant la fin de l'année, il y aura, vous le savez, un référendum sur les réformes politiques et constitutionnelles voulues par le président Patrice Talon. Réformes qui ont été passées au crible par une commission avec des points épineux comme le mandat unique à Cotonou, Delphine Bousquet.
C'est un des sujets de désaccord au sein de la commission et parmi les personnalités qui ont été consultées. D'ailleurs, dans son rapport, la commission prend acte des avantages et des appréhensions. Joël Aïvo, constitutionnaliste et rapporteur de la commission, défend le mandat unique.
Instaurer le mandat unique peut être un élément, un facteur de libération d'un chef d'État qui se consacre et se dédie entièrement à sa fonction et qui n'est pas totalement emprisonné dans les pesanteurs politiques, les contraintes des partisans. Mais nous ne perdons pas de vue les aménagements dont certains membres ont fait part. Il faudrait trouver, par exemple, à mi-parcours, des mécanismes de contrôle de l'action du président.
Mais le rapport indique aussi que le système actuel, mandat de 5 ans renouvelable une fois, peut être maintenu. C'est l'avis de Gena Zatassou, représentant de l'opposition à la Commission.
Un président de la République, s'il est élu, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent remettre ce mandat en cause et qu'ils travaillent à avoir des résultats pour lui permettre de remettre ce mandat en cause. Plutôt que de nous installer dans une situation où bon, quelqu'un est élu, il se dit « je fais comme je veux, je règle mes affaires ». De toute façon, on n'aura plus rien à me demander.
La commission n'a donc pas tranché, c'est le président qui le fera. Les pour et les contre auront l'occasion de faire campagne puisqu'il y aura un référendum avant la fin de l'année.
Notre adresse électronique.
semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Vous pouvez aussi nous écrire à la page Une semaine d'actualité de Facebook. Un bonjour aujourd'hui à Amsolas Abbas à Conakry. Le Brexit a engendré le racisme et je voulais que la presse insiste un peu plus sur le sujet, en l'occurrence Une semaine d'actu. Merci pour le travail abattu, écrit-il. Mes sincères remerciements pour votre émission qui nous tient toujours à cœur. C'est signé Oumar Abakar du côté du Maryland, dans le nord-est des États-Unis. Merci Oumar. Bonjour à Taïrou depuis Mopti au Mali en ma qualité de juriste de formation. J'ai beaucoup appris, écrit-il, et je continue d'apprendre grâce aux invités, notamment d'une semaine d'actualité. Ça sera sans doute le cas aujourd'hui, Stéphane. Merci et bon week-end, Taïrou. Un bonjour également à Tierno. Une sincère félicitation à toute l'équipe d'une semaine d'actualité, écrit-il, depuis la Guinée-Conakry. Bonjour enfin à Samy, à Lassi, à Bamako, à Mohamed, à El Jarida au Maroc, à Idriss, à N'Djamena et à Stig. À Zagreb, merci à tous pour votre fidélité. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Stéphane Lagarde, vous étiez ébahi hein, par,
oui, par le nombre des auditeurs qui écrivent, c'est vrai que c'est bien.
Sérieusement, il faut là aussi, sérieusement aussi, parler des relations de l'Afrique et de la Chine, de la Chine et de l'Afrique.
Ah oui, là je suis sûr que vos auditeurs et nos auditeurs, là, ça les laisse pas indifférents parce que la Chine...
Ils en sont les témoins sans
voilà.
doute.
La Chine était, c'est vrai, il faut le reconnaître, depuis des années, la Chine pense que l'Afrique sera la prochaine Chine, c'est-à-dire qu'elle croit vraiment dans le développement de l'Afrique. Alors on parle de chiffres astronomiques. Hein. Li Keqiang, le premier ministre chinois, estime qu'à 400 milliards de dollars, les échanges commerciaux entre Chine et Afrique d'ici à 2020. Alors ça, maintenant, il y a même des échanges en yuan. Hein. On convertit directement les banques centrales de certains pays africains passent directement par le yuan pour faire les échanges avec la Chine. Alors ça a souvent été un modèle pétrole contre infrastructure, si je veux résumer. Mm-hmm. C'est-à-dire que la Chine est boulimique en matière première. On a vu toutes ces grandes mégalopoles qui ont besoin d'énergie hein, pour s'éclairer, pour se chauffer, pour tout ça. Et donc il y avait un échange, on achetait des matières premières surtout. Mais c'était pas que ça. En fait, on s'est rendu compte que la Chine a aussi beaucoup fourni de l'aide à l'Afrique en matière médicale, dans plein de choses. Elle fait pas que construire des routes hein, contre des prêts. Elle fait également ça. Et puis également, elle fournit le plus de casques bleus. On ne sait pas. Hein. Beaucoup de gens savent pas, mais la Chine participe à l'effort de l'ONU pour la paix dans les pays africains notamment. Alors, par contre, il y a un problème, c'est que souvent l'échange est inégal. En tout cas au sens de certains pays africains. Certains banquiers, gouverneurs de banques centrales en Afrique l'ont fait remarquer aux Chinois. Et donc, la Chine a dû corriger un peu le tir. Et récemment, faire un peu plus profil bas, même si elle apporte beaucoup à l'Afrique, il faut aussi maintenant que l'Afrique puisse également soit exporter des choses, soit en tout cas se développer, avoir des technologies en échange, mais elle ne peut plus se contenter simplement de routes et de trains. Il faut également qu'il y ait un échange égal, en tout cas que ça s'améliore sur ce plan-là.
En tout cas, Mathieu Baratier, vous qui êtes à Pékin, il faut noter que la Chine veut être manifestement le leader de ce que l'on appelle les pays émergents.
Ah oui, c'est sa position officielle depuis très longtemps. Et la Chine se revendique à chaque fois comme un pays du tiers-monde, ce qui est de plus en plus difficile évidemment à prouver, parce que la Chine est de plus en plus riche, la Chine se développe, se modernise. Comme le disait Stéphane, on passe au robot en Chine dans certaines régions. Donc c'est parfois un petit peu le grand écart, mais pourtant c'est sa position traditionnelle et donc elle veut se faire le porte-drapeau, le porte-parole de tous ces pays en développement. Et d'ailleurs là, on a appris, c'était le premier conseil d'administration de la Banque asiatique d'infrastructure créée par la Chine pour un petit peu concurrencer la Banque mondiale, et c'est présenté comme une banque qui comprend et qui va aider les pays en développement plus que ne le ferait actuellement la Banque mondiale.
Alors, ce livre que je trouve formidable, aujourd'hui, la Chine parle de tout ce qu'on vient de dire, de politique, d'économie, de géopolitique, etc., etc., mais parle, je le disais en commençant, de la société chinoise, des sociétés chinoises, de la culture populaire, de la culture, et Dieu sait si elle est riche, de ce pays. Ça, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Et vous parlez même de ce que vous appelez le difficile renouveau de la culture populaire, et aussi, par exemple, du mariage, comme dans tous les pays, en crise, en quelque sorte, Stéphane Lagarde.
Oui, alors il y a même, j'ai oublié le terme, Mathieu va nous dire, mais il y a des femmes seules maintenant en Chine qui veulent plus se marier, parce que pour plein de raisons, parce qu'elles avaient des pressions familiales. Puis il y a le mariage, par exemple, on n'y pense pas, mais c'est aussi un problème, tout simplement, de logement, par exemple, de niveau de vie. Certains, il y a beaucoup de célibataires aussi, de garçons, notamment célibataires. Il y a un jour des célibataires en Chine où, évidemment, les grands du marketing, notamment Alibaba, les boutiques internet, font des records absolu de vente, soi-disant de promotion pour les célibataires, justement, parce que pour se marier en Chine, il y a quand même, c'est ça qui est formidable dans ce pays, et parfois triste, c'est qu'il y a à la fois une modernité incroyable et des pesanteur parfois des traditions. Et par exemple, pour se marier, pour un garçon, il faut fournir un appartement. Et quand on connaît les prix des loyers aujourd'hui à Pékin et dans les autres grandes villes, c'est pas évident. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de célibataires encore.
Alors il y a un chiffre, Mathieu Baratier, qui m'a fait sursauter en lisant votre livre. C'est à la page 102. Le bonheur, c'est les autres. Selon ce chiffre, 6% seulement des Chinois sont heureux. 6%.
Ah, oui.
C'est un sondage, j'imagine. Il faut prendre ça avec précaution, mais quand même.
Oui, c'est difficile. Enfin, on peut l'interpréter de plusieurs façons différentes. Moi, ce que je sentirais comme ça dans ma connaissance de la Chine, c'est que peut-être qu'il y a une sorte d'insécurité dans la société chinoise en général. Il y a beaucoup de pression économique pour réussir, pour être le premier, parce qu'ils disent qu'ils sont très nombreux et que tout le monde, il n'y aura pas de place au soleil pour tout le monde. Donc, il y a énormément de pression, énormément de compétition. Et puis, il y a de l'insécurité, on va dire, insécurité sociale, pas d'insécurité au sens de la violence, mais les gens n'ont pas forcément confiance dans l'État, pas forcément confiance dans ce qu'ils vont acheter au supermarché. Est-ce qu'il n'y a pas des produits chimiques dans le lait que j'achète, par exemple ?
C'est-à-dire qu'il y a eu quelques affaires retentissantes.
Donc, il y a tout ce climat. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a ce climat qui fait qu'il y a de la méfiance et donc il y a plus de la pression, ce qui fait qu'en effet, pour s'épanouir, ce n'est pas forcément le cadre idéal.
Non, mais vous parlez de Stéphane et Mathieu de la famille, pas seulement du mariage. Vous dites que c'est aussi un modèle qui vacille un petit peu.
Oui, parce que tout simplement, avant, on avait le modèle chinois, c'était 4 générations sous le même toit. Hein, on se restait tous ensemble. Et puis surtout, les plus jeunes, on faisait des enfants. Puis quand ils arrivaient
un enfant unique, jusqu'ici.
Un enfant unique. Il était choyé parce que celui-là, quand il avait un foyer, il fallait qu'il aide les parents. Hein, on ne les laissait pas tomber. Il y a le système de retraite et ce qu'il est en Chine, donc il n'existe quasiment pas. Donc il fallait aider ses parents. Alors ça explose pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a énormément de migrants dans ce pays. Hein. C'est pas que des migrants venus de l'extérieur, c'est aussi des migrants internes qui vont travailler dans les villes, ce qu'on appelle les Mingong, les paysans migrants. Alors ça a un peu changé, mais c'est des paysans ouvriers, qui vont travailler dans les villes. Et eux, ils doivent laisser, par exemple, leurs enfants à la campagne avec les grands-parents. Donc ça donne une autre structure. Hein. C'est plus quatre. Et puis surtout, les enfants sont de plus en plus. D'abord, ils ont des difficultés économiques. Donc et puis surtout, ils ont envie de profiter un peu de la vie, d'aller en vacances à l'étranger. Ils vont pas forcément respecter les traditions familiales, notamment pendant les grandes fêtes de l'automne, aller forcément dans la famille pendant 3 semaines. Non, il y en a qui disent, moi je vais aller à Bali, je vais aller en Thaïlande et je m'occupe moins des parents. Donc ça donne des choses tout à fait surprenantes, par exemple des procès de parents qui disent que vous êtes, qui demandent à leurs enfants de venir les voir, les vieux parents qui disent, vous venez plus nous voir, donc vous êtes obligés de venir une fois que vous avez quitté la famille, que vous êtes dans la belle famille, qui oblige, et même des décisions de justice qui demandent aux enfants d'aller visiter les parents.
Oui, parce que c'est une obligation légale de devoir aider ses parents. C'est un héritage du confucianisme. Et donc, c'est vraiment écrit dans la loi. Donc, c'est quelque chose de très profond dans la culture chinoise.
Stéphane, on va terminer avec une autre facette de votre travail. On sait que vous travaillez beaucoup et que vous êtes en tout cas votre spécialité de la Chine s'exprime de différentes manières. Le cofondateur d'un site dont on avait parlé dans cette émission d'ailleurs, Asialist, comment se porte-t-il le site aujourd'hui?
Alors là, on a passé une autre étape. On a été reconnu, Asialist donc est un nouveau site qui parle de l'Asie en général et pas simplement de la Chine.
Alors tous ceux qui s'intéressent à l'Asie doivent y aller, c'est l'adresse, il faut le rappeler.
www.asialist.com, hein, Asialist, Asialist, si je ne me trompe pas, asialist.com. Et donc, voilà, on est passé un cap parce que le ministère de la Culture en France nous a reconnu comme un média généraliste, donc qui est susceptible de fournir une information pluraliste et qui s'adresse à tout le monde et qui peut concerner un vaste public. Donc, voilà, on est très fiers de ça. Et là, en ce moment, on fait une campagne de fonds sur Ulule, hein, ça se trouve sur Internet, vous allez vous marquer Asialist Ulule, pour nous aider à développer notamment des newsletters, réformer le site. Voilà, donc on est un peu en train de chercher des investisseurs pour aider aussi à payer les contributeurs, hein, qui viennent de tous les pays d'Asie.
Il faut soutenir Asialist. Merci Stéphane Lagarde.
Merci beaucoup Pierre-Edouard.
Merci Mathieu Baratti à Pékin.
Merci.
Votre livre, je le rappelle, s'intitule aujourd'hui La Chine. Il est publié chez Casterman avec RFI. Une semaine d'actualité réalisée par Ludivine Amado. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous ne quitterons pas vraiment l'actualité car notre invité sera Bertrand Badi, expert en relations internationales, professeur à Sciences Po à Paris. Il nous offrira un autre regard sur le monde tel qu'il va. Idée demain dimanche, 15h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Et n'oubliez pas que nous allons nous retrouver désormais pendant l'été chaque vendredi, dès vendredi prochain, avec Claude Angéli du Canard Enchaîné. Il a été longtemps le rédacteur en chef de l'hebdomadaire satirique. Et donc chaque vendredi, à 14h10, temps universel, 16h10 à Paris, il viendra nous raconter ses grandes enquêtes à ne pas manquer. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.